Bonsoir à tous. Je suis dans une grande joie ce soir en constatant à quel point l'esprit n'est pas divisé. Depuis le début de la réunion, il y a une pensée qui est là et je sais ce que je vais vous dire. Vous savez pas, moi je sais. Et je me réjouis à l'avance parce que le Seigneur, il veut faire du bien à nos cœurs, il veut faire du bien à quelqu'un ce soir et qu'on puisse saisir la grâce de Dieu. Vraiment, je vais prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes tous devant toi et nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus parce que oui, tu veux nous faire du bien, tu veux nous encourager et vraiment je te rends grâce. Je te rends grâce parce que de ton ciel de gloire, tu prends la peine de venir jusqu'à nous pour nous parler. Vraiment Seigneur, je te rends grâce de tout mon cœur ce soir, que vraiment ce soir nous puissions saisir par la foi ce que tu veux nous dire, que nous puissions retrouver des forces, reprendre courage. Seigneur, je te rends grâce de tout mon cœur. Amen. J'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole ensemble dans le livre de l'Apocalypse. Pour commencer, je vais lire quatre versets d'introduction du texte de base que j'aimerais aborder avec vous. Le premier se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 14, verset 13. J'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Il est question des morts, c'est vrai. On peut y voir une pensée supplémentaire, ça c'est une parenthèse, ça fait drôle de commencer par une parenthèse, mais les morts en Christ, eh bien, leurs œuvres les suivent aussi. Et ils se reposent de leurs travaux. Ça veut dire qu'en travaillant, on est aussi dans le repos. L'apôtre Paul nous invite à l'imiter, et on va voir aussi que la parole de Dieu nous encourage à imiter ceux qui nous ont précédés. J'aimerais qu'on lise maintenant un texte dans Ésaïe, au chapitre 43. Ésaïe 43, verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Texte suivant qui nous a été lu tout à l'heure, Hébreux, chapitre 6. Nous lisons les versets 11 et 12. Je prends la peine de lire les textes, mais je crois que c'est important. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Le dernier texte d'introduction se trouve dans la deuxième épître de Jean, et nous lisons le verset 8. 2 Jean, verset 8. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de votre travail. C'est un avertissement quand même, c'est un encouragement mais aussi un avertissement. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de votre travail, de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Une pleine récompense. Et maintenant, on va lire le texte qui m'intéresse ce soir sur cette prédication, ces quatre petits textes que j'ai lus. Résume en quelque sorte le message que j'ai à cœur de vous apporter, mais là on va lire le texte sur lequel je vais vraiment m'appuyer, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16, et on va lire à partir du verset 3. Vous allez peut-être trouver le texte surprenant, mais vous allez voir que même à travers des énumérations comme celle-ci, le Seigneur veut nous parler et nous faire du bien. Verset 3. Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres et qui même ont appartenu à Christ avant moi. Saluez Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, elles qui prennent de la peine pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a pris beaucoup de peine pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu, dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu'Olympas, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. Amen. J'ai donné pour titre à ce message les héros de Rome. On connaît très bien les héros de la foi, mais les héros de Rome, on les connaît un peu moins bien. Cette liste, elle est assez intéressante parce que justement, elle correspond à d'autres listes d'ailleurs qu'on peut trouver dans la parole. On connaît Hébreux 11, qu'on cite peut-être un peu plus souvent. On connaît peut-être un peu moins bien la liste qu'on trouve dans 1 Chronique 27, où il est question de héros qui ont combattu aux côtés de David. Et il y a une autre liste aussi dans Néhémie 3, où il est question de tous ceux qui ont participé à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Quand je regarde cette liste, c'est de par les, pour les commentateurs, elle a posé un peu un problème, cette liste, parce que l'apôtre Paul, alors qu'il écrit cette lettre aux Romains, il n'y a jamais mis les pieds. Alors tout le monde se dit, mais comment ça se fait qu'ils connaissent autant de monde là-bas? Il en connaît du monde, la liste est longue. Et c'est à poser problème, et justement, c'est là où on va se rendre compte qu'il était important que cette liste existe et fasse partie de l'épître, parce qu'elle nous parle beaucoup, on va le voir, c'était important. Et c'est ce qui fait justement, moi je dirais, c'est, là j'en suis convaincu, le fait qu'il n'y soit pas allé avant, ça prouve encore le fait que c'est inspiré par Dieu. L'apôtre Paul voulait aller voir les Romains. Et on va le lire quand même au début de l'épître aux Romains, il le dit lui-même au chapitre 1er, verset 8. Jusqu'au verset 10, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. Je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous. » L'apôtre Paul, il y a des gens qu'il connaît déjà, qu'il a croisés dans ses diverses missions, notamment ceux qui s'en occupent, Aquila et Priscille, que ce sont des amis à Paul. Mais l'apôtre Paul a un vif désir d'aller les voir. Et il évoque justement la renommée qu'a l'église de Rome dans tout l'Asie mineure, dans la Grèce, etc. Et il est question de leur foi aussi quelque part. Dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 1er, il est écrit « La renommée est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » Ici, l'apôtre Paul est conscient que dans cette église de Rome, il y a une richesse spirituelle. Et on constate d'ailleurs que la lettre qu'il leur écrit est tout aussi riche. Hein. Ici, on a une liste dans Romains 16 de chrétiens sauvés par grâce. On y distingue plusieurs origines. Il y a Aquila et Priscille qui viennent de la région du Pont, c'est la région qui est au sud de la mer Noire, en Turquie actuelle. Il y a Marie, on suppose qu'elle est juive, Myriam, ça vient de Myriam. Il y a Rufus qui vient probablement de Cyrène, donc là c'est en Libye. Il y a Perside, de par son nom, on déduit qu'elle vient de Perse. C'est une église cosmopolite avec différentes origines. Et il y a aussi plusieurs niveaux sociaux. Il y a Aristobule, Hérodion, Aquila et Priscille, qu'on suppose être des gens riches et même bien placés, surtout Aristobule, qui lui était un proche de l'empereur. À l'inverse, on en a d'autres, de par leur prénom, on en déduit que c'était des esclaves. Urbain, Amplias, Stachys, c'était des noms d'esclaves qui avaient été affranchis. Avant d'aller un peu plus loin sur la description de cette liste, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'apôtre Paul. On va y revenir à cette liste. L'apôtre Paul, il est important, je vais faire un parallèle et vous allez comprendre où je veux venir au fur et à mesure. L'apôtre Paul, il va vivre avant d'aller à Rome, parce qu'il veut y aller. Et le livre des Actes se clôt sur cette arrivée de Paul à Rome. Avant de partir à Rome, il va arriver à Jérusalem. À Jérusalem, il est en train d'apporter le fruit des offrandes, de la collecte, etc., de toutes les églises de ses précédentes missions. Et là, les Juifs vont l'arrêter. Les Juifs arrêtent Paul. Il se retrouve emprisonné. Et alors qu'il est emprisonné, c'est intéressant parce que là où commence ce parallèle que je vais faire, il commence à Jérusalem, à l'endroit où Christ lui-même est mort. Et à cet endroit, l'apôtre Paul est capturé par les Juifs qui veulent absolument se débarrasser de Paul. Or, les Juifs, ou je dirais la loi, n'ont pas pu le retenir parce que l'apôtre Paul est citoyen romain. Il y a tout un parallèle qu'on va pouvoir faire avec nous qui faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes citoyens des cieux. Et à cause de notre citoyenneté du ciel, la loi ne peut pas nous retenir. Et on va voir, vous allez voir jusqu'où on peut comparer. Donc on voit dans le livre des Actes, chapitre 22, verset 29, on lit ceci. Ne cherchez pas, je vous le cite, aussitôt ceux qui devaient lui donner la question, donc la flagellation, se retirèrent. Et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Est-ce que l'apôtre Paul n'était pas d'ailleurs citoyen romain par la grâce de Dieu? Forcément que si, parce que c'était par naissance. C'était par sa naissance qu'il était. Ici, c'est l'Empire romain qui va protéger Paul contre ses accusateurs. De la même manière, c'est le royaume de Dieu et le régime du royaume de Dieu qui va nous protéger face à l'accusateur. Celui qui veut nous faire tomber, celui qui veut nous éloigner de Dieu, celui qui veut nous amener avec lui là où est sa destination éternelle. Il veut nous entraîner, mais Dieu veut nous garder. Alors quand on regarde un peu le périple de Paul, on voit que Paul n'aura pas honte de l'Évangile. Il le dit aux Romains d'ailleurs. Et dans Actes 23, au verset 11, on va voir qu'il va être encouragé. Il va témoigner devant les Juifs. Il n'en aura pas honte. Il n'aura pas peur. Il va le faire pleinement convaincu, rempli du Saint-Esprit. Et ensuite on voit... On peut le lire ça quand même, bon, c'est écrit et c'est bien. Acte 23, verset 11. Acte 23, 11. L'apôtre Paul reçoit un encouragement. Alors que justement, il vient pleinement convaincu, pleinement rempli du Saint-Esprit. Il vient de témoigner. Et ici, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage ». Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Suite à cet encouragement, il va y avoir un complot. Les Juifs ne vont pas s'arrêter là, en si bon chemin, et ils vont comploter contre Paul. L'apôtre Paul va se retrouver avec cette protection. Il va y avoir juste 400 soldats et 70 cavaliers dépêchés par le tribun pour l'escorter. Moi, ça m'a fait penser à une parole de Jésus. Alors qu'il est sur le chemin qui va l'amener à sa souffrance, il est à Gethsémané où il en sort. L'apôtre Pierre vient de couper l'oreille. Et Jésus dit, mais ne penses-tu pas que je puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Dieu est prêt à nous protéger. Et ici, on a une image avec l'apôtre Paul de la protection que nous pouvons avoir à travers la persécution qu'on peut subir. On peut subir de la persécution, on peut souffrir, mais Dieu nous protège. On ne sait pas à quel point Dieu nous protège. Ici, l'apôtre Paul a été quand même pas trop mal escorté, moi je trouve. Et pendant le voyage, il n'a même pas eu à marcher. Il était sur un cheval. Ça ne s'arrête pas ici. Ensuite, il va y avoir l'appel à César. Devant la persistance de l'accusation des Juifs, la loi romaine permet à Paul d'en appeler à César. C'est alors que finalement son voyage vers Rome va vraiment commencer. Et l'apôtre Paul, il sait qu'il va gagner son procès et que les Juifs ne pourront rien contre lui. Mais il y a toute une image. D'ailleurs, l'apôtre Paul écrit aux Romains, « Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Personne ne peut nous condamner. » De même que Paul avait cette assurance qu'il gagnerait son procès, nous qui sommes chrétiens, qui à la croix avons demandé pardon pour nos péchés, nous qui à la croix avons demandé à Dieu de nous secourir, nous qui nous sommes placés devant lui avec un cœur sincère, il est venu nous arracher à celui qui nous accuse. Et nous avons cette garantie. Le chrétien, celui qui suit le Seigneur de tout son cœur, il a cette garantie que le diable ne peut plus rien faire contre lui. Il peut accuser, mais Christ est mort et il intercède. L'apôtre Paul fait appel à César. Est-ce que nous faisons appel à celui qui intercède pour nous dans nos souffrances ? Le voyage à Rome commence. Acte 27. On va le lire, ce texte aussi. Le chapitre 27, il est question d'une grande tempête. Vous savez, on a chanté ce chant tout à l'heure. La grande tempête que l'apôtre Paul a traversée, souvent on la compare justement à la mort. C'est une image. La tempête, la grande tempête, c'est souvent on est amené à comparer une grande tempête à la mort. Et ici, ça a une saveur particulière. Acte 27, verset 24, l'apôtre Paul est à nouveau encouragé. Et voici ce qu'il partage à ceux qui sont avec lui sur le bateau. « L'ange m'a dit, Paul, ne crains point, car il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Moi, ça m'a fait penser à un autre texte. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10. « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, ce tribunal devant lequel on sait qu'on a l'assurance de celui qui intercède pour nous en notre faveur. C'est le tribunal où on sait que nos accusateurs pourront absolument rien faire. Et ce tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Paul, il est certain qu'il sera libéré, qu'il sera justifié du point de vue des Romains. Comme nous serons justifiés du point de vue du royaume de Dieu. Paul n'a absolument rien à se reprocher. Est-ce que vous voyez l'image que je suis en train de faire? L'apôtre Paul va à Rome. Nous allons vers le ciel. Ici, Rome a une signification particulière. Quelle image, ensuite, quand on va penser à toute cette liste. C'est pas terminé. Ici, on va voir que le voyage va être mouvementé, c'est l'image de la mort. Et l'apôtre Paul va arriver à Rome. Et c'est merveilleux de lire ce passage quand on a ce parallèle en tête. Regardez Acte 28, verset 13. De là, imaginez la scène quand on ira au ciel. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Reggio. Le vent du sud s'est enlevé le lendemain. En deux jours, nous sommes parvenus à Pouzzole, où nous avons trouvé des frères qui nous prièrent de rester 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. Verset 15. Les frères de cette ville, qui avaient eu de nos nouvelles, vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux trois tavernes. Donc il y a eu deux fois. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Imaginez, on ne peut pas l'imaginer, mais quand on ira au ciel, ceux qui viendront à notre rencontre, qui sortiront de la patrie céleste et qui viendront nous voir, ceux qui auront entendu parler de nous, ceux qui nous connaîtront, qui viendraient à notre rencontre alors qu'on y va au ciel. Jésus, lui-même, qui va recevoir ceux qui le connaissent vraiment. Quelle image de ce qui attend les chrétiens qui iront au ciel. Quel espoir que ne serait-ce que d'imaginer tous ceux qu'on a aimés, tous ceux qui nous ont précédés, alors qu'on va être au ciel, on va les retrouver. Moi, je trouve ça beau et je crois que ça doit nous remplir d'espérance. Ça doit nous remplir de cet espoir, de cette joie aussi. Alors maintenant, je crois qu'on peut regarder cette liste de Romains 16 avec un autre regard. On trouve plusieurs types de personnes. Dans Romains 16, alors effectivement, quand Paul écrit cette lettre, Aquila est bien vivant, il n'est pas au ciel, il est à Rome, mais c'est une image. Il y a une image. Et ici, on y voit une liste de personnes. On voit Aquila et Priscille, ce sont des compagnons d'œuvre, et ils ont donné leur propre vie pour Paul. Ils n'ont pas hésité. 1 Jean 3,16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Ce n'est pas étonnant qu'ils soient en premier, parce qu'ils ont marché exactement sur la voie que Jésus lui-même a tracée. Ensuite, il y a des gens qui ont travaillé, voire travaillé dur pour les frères et pour le Seigneur. Ici, on voit Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Et là encore, c'est pour l'autre. Ensuite, on voit des personnes, Andronicus et Junias, ce sont des compagnons de captivité. Dans Hébreux 13,3, souvenez-vous des prisonniers. Comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Il y a ceux qui ont, notamment un, qui a enduré l'épreuve, patiemment. Ici, on voit Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. C'est quelqu'un qui a supporté l'épreuve. C'est quelqu'un qui a supporté la souffrance. Il y est au ciel. L'apôtre Paul cite un certain nombre aussi de parents spirituels. Je ne vais pas tous les citer, il y en a quelques-uns. Mais j'aimerais juste vous citer ce texte qu'il écrit à Timothée, au chapitre 5 et verset 4 de sa première épître. « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. » Quoi de plus normal pour l'apôtre Paul que de les citer ? C'est normal qu'il veuille les honorer. Ensuite, il y a des bien-aimés. Alors, concernant les bien-aimés, je suis allé voir dans la troisième épître de Jean. Il y a trois versets qui nous parlent des bien-aimés. 3 Jean, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que je suis un bien-aimé ? Le deuxième verset que Jean écrit, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers. » Est-ce que je suis un bien-aimé ? Troisième verset, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui a fait le bien est de Dieu. » Celui qui fait le bien, pardon, parce que c'est bien au présent. « Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Est-ce que je suis un bien-aimé ? Est-ce que je suis de ceux qui imitent le bien, de ceux qui sont ce bon exemple ? Ou est-ce que je suis de ceux qui regardent aux problèmes, regardent aux épreuves et qui seraient sur le point de lâcher prise ? Ça peut arriver. Mais le Seigneur, comme on l'a chanté, et on va le revoir tout à l'heure, son désir, c'est de nous faire du bien, c'est de nous sortir de cette épreuve. Et il y a tellement d'espérance à la clé. Il y a tellement d'espoir quand on imagine ce qui nous attend là-haut, dans le ciel. Il y a aussi des anonymes, des personnes qui sont saluées sans pour autant qu'on connaisse leur nom. Je me suis posé la question... Si Dieu nous écrivait, Assemblée de Sainte-Agne, quels seraient les noms qu'il aurait cités ? Quels seraient ceux qui auraient été honorés ? Quels seraient ceux qui auraient été juste salués sans que leur nom soit cité ? Et quels seraient ceux qui n'auraient pas été cités ? Moi, c'est une question que je me pose quelque part dans cette liste. Imaginez la réaction. Il y a des gens... Dans cette lettre, elle a été lue. On imagine que c'est justement Phoebé qui est introduite au premier verset, qui a porté la lettre. On n'en est pas sûr, mais on peut le penser. Et imaginons le moment où il y a eu toute l'épître qui a été lue, on arrive aux salutations, et là il y a des personnes qui doivent peut-être s'attendre à entendre leur nom. Leur nom n'est pas cité. D'autres personnes ne s'attendent peut-être certainement pas à la petite mamie du coin là qui a une vie de prière et qui, elle, ne s'attendait peut-être même pas à être citée. Paf, elle entend son nom. Elle s'est donné beaucoup de peine. Moi, ça me fait réfléchir quand même, cette liste de noms. Quand j'étais adolescent, il y avait un chant que j'aimais beaucoup chanter qui disait « Il a écrit mon nom là-haut, tout là-haut dans le ciel ». Et peut-être un jour, on le chantera à Saint-Anne, je le ferai peut-être chanter un jour. Mais je me suis posé la question, est-ce que mon nom est toujours écrit là-haut ? Il faut se la poser, cette question. J'aimerais qu'on lise ensemble le livre d'Ésaïe, au chapitre 48. Ésaïe 48, verset 17. Et on va lire jusqu'au verset 22. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis à ton profit. Je te conduis dans la voie où tu marches. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, et ta justice comme les flots de la mer. Ta descendance serait comme le sable et ta progéniture comme les grains de sable. Son nom ne serait pas retranché, anéanti devant moi. Une autre version dit « Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. » Et là, on arrive au conseil de Dieu. Sortez de Babylone. Fuyez du milieu des Chaldéens avec une voix triomphante. Annoncez-le. Faites-le entendre, propagez-le jusqu'à l'extrémité de la terre. Ça me rappelle ce que Jésus a commandé à ses disciples. Allez de par le monde et faites des disciples. C'est la même chose. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ils n'auront pas soif dans les terres arides où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix, dit l'Éternel, pour les méchants. Les méchants, c'est ceux qui n'écoutent pas. Jésus a dit, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et perverse et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Il y a quand même un avertissement qu'il faut que je donne dans cette prédication. C'est beau d'imaginer qu'on peut aller au ciel, mais il faut le dire que tous n'iront pas. Tous n'iront pas au ciel. On doit le savoir si oui ou non on y va. Est-ce que, comme Paul qui se dirige vers Rome, on se dirige vers la patrie céleste? Il y en a qui pensent qu'ils seront salués, mais ils ne seront pas salués. On lit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 22, plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Un peu plus loin, Matthieu 25, on a la même situation. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Le retour du Seigneur est proche. Et le commandement que Dieu nous laisse, c'est un commandement, mais voyez-le comme un conseil, c'est toujours suggéré. Dieu nous conseille et ne nous forcera jamais. Mais c'est quand même écrit, sortez de Babylone. Fuyez les Chaldéens. Babylone, c'est quoi? C'est ce monde. C'est ce monde qui nous amène à nous perdre dans des vices des uns et les autres, dans le péché. C'est le monde qui va nous amener à avoir des passions, à droite, à gauche. C'est le monde qui va nous inviter à aller regarder des saletés à la télévision ou sur son smartphone, c'est tellement plus simple. C'est le monde qui va nous amener à nous détourner de Dieu. C'est le monde qui va peut-être nous amener à aller consulter des voyants ou aller regarder l'horoscope pour savoir si ça va bien se passer demain. C'est le monde qui va essayer de nous amener à avoir des relations avec les femmes, les hommes qui ne plaisent pas à Dieu. C'est tout ça, ce monde que l'apôtre Paul décrit très bien d'ailleurs aux Romains dans son premier chapitre, ce monde où le péché est roi. La parole de Dieu m'invite à me séparer de ces choses. Il me faut me détourner de ces choses. Est-ce que je suis tracassé sur les choses du Seigneur ou est-ce que je suis tracassé sans cesse de me dire « Tiens, je vais aller voir quoi comme film la semaine prochaine ?» À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si vous regardez la liste que l'apôtre Paul nous donne dans cet épître aux Romains, ce sont quand même des gens qui ont travaillé. Ce sont quand même des gens qui ont eu de la peine. Ce sont des gens qui ont persévéré, pour redonner un peu le mot de la soirée. Ce sont des gens qui ont supporté l'épreuve patiemment. Ce sont des gens qui ont été patients, justement, malgré peut-être une réponse qui ne semblait pas venir. Ils ont tenu ferme dans leur foi. Et ils n'ont jamais douté de celui qui leur avait promis les choses. Celui qui leur avait promis un conjoint. Celui qui leur avait promis une situation dans un travail. Celui qui leur avait promis tel ou tel service dans sa maison, la maison du Seigneur. Celui qui tient ferme, qui persévère, qui endure patiemment, il va hériter les promesses. Alors, est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois ce que Dieu dit? Ou est-ce que je lui tourne le dos? J'aimerais juste pour conclure qu'on regarde le verset 15. C'est une partie de l'exercice que j'ai fait hier en regardant cette épître et cette liste-là, cette liste de héros. Et le verset 15 m'a interpellé quand même. Vous allez me dire, c'est que des noms. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, ainsi qu'Olympas et tous les saints qui sont avec eux. Alors je suis allé regarder ce que voulaient dire les noms. Philologue, quand on a fait un peu de grec, on s'en doute assez rapidement. Ça veut dire celui qui aime les paroles, la connaissance. Mais quand on va chercher plus loin, le mot log, il vient d'un mot qui veut dire logos. Et logos, c'est la parole de Dieu. Celui qui aime la parole. Julie, ça fait référence à Julius, un illustre de Rome, qui rappelle l'empereur lui-même, Jules César. Et c'était une famille. Et ça veut aussi dire douce chevelure. Chez les Juifs, la chevelure, vous regarderez l'histoire de Samson, elle a un sens bien particulier. C'est celui qui est consacré. Ensuite, il y a Néré. Néré, ça veut dire qui ne coule pas. Et c'est la racine même de ce mot, à l'origine, parle d'un grand bateau de grande dimension qui flotte. Et enfin, il est question d'Olympas. Olympas, ça veut dire céleste. En d'autres termes, celui qui aime la connaissance, la parole de Dieu, celui qui se consacre à Jésus-Christ, il ne coulera pas, comme on l'a chanté. Il ne sera pas submergé, il ne coulera pas, mais il ira au ciel. Juste dans cette liste de noms, on y trouve des enseignants. Je vous encourage à faire le même travail que moi et à regarder. C'est d'une richesse, la parole de Dieu. Et je crois que quand on réalise ces choses, moi encore ce soir, et j'aimerais qu'on se recueille quelques instants, qu'on puisse réaliser peut-être que nous avons part à une glorieuse espérance. Et je crois que le Seigneur voulait vraiment ce soir que nous le comprenions, que nous marchions vers la patrie céleste. Comme on l'a chanté aussi. Nous allons vers cette patrie, vers le ciel. Le Seigneur revient bientôt. Quand est-ce qu'il revient? Peut-être très bientôt. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que mon nom est écrit dans le ciel? Ou est-ce qu'il a été effacé parce que je me suis détourné de Dieu? Est-ce que je persévère? Est-ce que je suis prêt à endurer patiemment l'épreuve? Le Seigneur, il n'a qu'un désir. Comme nous l'avons lu en introduction, je t'appelle par ton nom. Et il te veut, toi, auprès de lui, dans le ciel.